إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم منها. فعباد الله، ما زلنا مع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله جل وعلا. وبحمد الله عز وجل نحن في فصل بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. فذكرنا أن منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلفيين، هو المنهج الوسط، وهذا المنهج يقوم على الأصول الثلاثة، ألا وهي كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما وقع عليه الإجماع، وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه. Donc, nous sommes toujours sur le chapitre concernant l'exposé des choses qui vont venir parfaire ou compléter la croyance parmi les comportements nobles et les bonnes actions que les gens de la sunna doivent adopter. On avait mentionné donc la semaine dernière que le manhaj, la méthodologie des gens de la sunna, des salafis, repose sur trois fondements. Le livre d'Allah, Jalla wa Ala, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et al-ijma'u, le consensus des ulama de la communauté à chaque époque. Et ceci est le manhaj du juste milieu, ainsi que le droit chemin. Naam. Et donc, les nobles comportements et les actes de bienfaisance vont venir compléter cette croyance et ce manhaj. Voyez. فيقول المؤلف رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا، أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. فقال المؤلف رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة، أي يرونها من الدين، يرون أن النصيحة من الدين. وأصل النصح في اللغة الخلوص، وشرعا هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه. فأهل السنة يريدون الخير للأمة ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها. ومن صفات أهل السنة التعاون على الخير وتألم لألم المصابين منهم، فهم يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضها بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، دونك on poursuit l'évocation des comportements et des caractères que doivent adopter les gens de la sunna. Demande à Allah Jalla wa Ala qu'on en fasse partie. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam, et il considère an-nasiha, qu'on va traduire l'appel au, par l'appel au bien, an-nasiha, ou le souhait de faire le bien pour la umma. Donc il considère que la nasiha fait partie de la religion. La nasiha pour la communauté fait partie de la religion. Taïeb, donc la nasiha, de manière générale, c'est vouloir le bien à la personne pour laquelle on fait nasiha. Donc, la racine de nusr dans la langue arabe, c'est el-khulous. Et el-khulous, donc, c'est la pureté. La pureté. La netteté. D'accord? Nusr, dans la langue arabe, c'est la pureté. Mais, dans la terminologie religieuse, c'est la volonté ou le souhait, le fait de souhaiter du bien vis-à-vis de celui à qui on a fait nasiha. Souhaiter le bien, vouloir le bien pour celui à qui on a fait nasiha. Donc on peut traduire par conseil, bien sûr, mais en vérité, dans la langue arabe, c'est un terme qui est beaucoup plus vaste qu'un simple conseil. D'accord? Donc vouloir le bien pour celui pour qui on fait nasiha et l'orienter vers ce qui lui est bénéfique. Donc toi, quand tu souhaites le bien pour une personne et que tu vas l'aider et que tu vas la diriger vers ce qui lui est bénéfique, sache que tu as été nasih envers lui. Tu as fait preuve de nasiha envers lui. Les gens de la sunna, donc, veulent le bien pour toute la communauté. Et ils orientent, ils guident la communauté vers les choses qui lui sont utiles. Donc parmi les caractéristiques des gens de la sunna, l'entraide dans le bien. Aider ou céder les uns les autres dans le khayr. Mais aussi la souffrance causée par la souffrance de la communauté. D'accord? Donc céder les uns les autres, mais aussi avoir de la compassion, avoir de l'empathie les uns pour les autres et souffrir quand les musulmans souffrent. Donc ils ont la croyance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant pour le croyant est comme une structure fortifiée, une construction. Le croyant pour le croyant est similaire à un édifice fortifié, se fortifiant les uns les autres. Et quand il a dit ça, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entrecroisé ses doigts. Il a entrecroisé ses doigts comme ça, pour montrer que les croyants sont, yani, se soutiennent les uns les autres et se fortifient les uns les autres. Et également sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des croyants par rapport à l'amour mutuel, par rapport à la compassion mutuelle ou à la bonté les uns envers les autres, est similaire au corps. Al-jasad, c'est le corps. Le corps, quand un des membres souffre, eh bien les autres membres partagent la souffrance. Le corps humain, yani, quand un des membres souffre, les autres membres vont partager sa souffrance. Hein? Et cela va générer de la fièvre. Et quand la personne a la fièvre, c'est le corps entier qui le ressent. Wassahar. Wassahar, c'est quoi? C'est le fait de ne pas dormir la nuit. Taïeb, donc il se peut que tu aies mal à une seule dent. Une seule dent te fait mal. C'est tout le corps qui va avoir mal. Et tu ne pourras pas dormir. Et tu auras la fièvre. Taïeb, à cause d'une seule dent. Eh bien, les musulmans, c'est pareil. Quand un des membres souffre, c'est toute la communauté qui souffre avec lui. Allahu Akbar. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et autre que eux. Naam. Yaqul, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ha'oula, et ahlu sunna, yansahouna lil-umma, ta'atan lillahi azza wa jal, wa tadayyunan lah, li qawli al-Rasul sallallahu alayhi wa sallama, fi hadithi tamim, ابن أوس الداري رضي الله عنه الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله ما معنى النصيحة لله عز وجل هو صدق الطلب في الوصول إليه. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc les gens de la sunna, ils font preuve de nasiha pour la communauté. Mais pourquoi ils font ça? Par obéissance à Allah Jalla wa'ala, pour rien d'autre. Pas pour un intérêt terrestre, ou pour un intérêt yani, matériel ou mondain. Là, ils le font pour Allah Jalla wa'ala. Et parce que pour eux, an-nasiha fait partie de la religion. La preuve, la parole du prophète, alayhi salat wa salam, dans le hadith rapporté par Tamim ibn Tamim ibn Awsin, al-Dari, radiyallahu anhu. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion, c'est la nasiha. La religion, c'est la nasiha. Et on a dit la nasiha, dans la religion, c'est vouloir le bien. D'accord? Taïb. Et là, les sahaba, ils ont dit, la nasiha, pour qui? Ou par rapport à qui? Ô messager d'Allah. Il a dit, par rapport à Allah, à son livre, à son messager, au guide des musulmans et aux musulmans de façon générale. Donc la nasiha par rapport à Allah, ça veut dire quoi? Faire preuve de nasiha vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le shaykh, eh bien, c'est le fait d'être véridique dans la recherche de la satisfaction d'Allah. Être véridique dans la recherche de la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Et bien sûr, cela va se réaliser à travers l'ikhlas, la sincérité absolue pour Allah Jalla wa Ala dans tout acte d'adoration. L'ikhlas. طيب والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي صدق الاتباع له صدق الاتباع له ويستلزم ذلك الذود عن دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولكتابه. C'est quoi maintenant la nasiha par rapport au messager? Comment on peut être nasih, faire preuve de nasiha pour le messager sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, c'est être véridique dans son suivi, être véridique dans le suivi de la sunna. Et cela impliquera donc que tu doives défendre la religion d'Allah Jalla wa'ala avec laquelle est venu son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux faire preuve de nasiha pour le messager, tu dois défendre l'islam. Tu dois préserver l'islam de toute innovation, de toute chose inventée, mensongère sur l'islam. C'est pour cela qu'il a dit par la suite, et pour son livre. فَيَنْسَحُ لِلْقُرْآنِ بِبَيَانِ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَنَّهُ يَجِبُ تَصْدِيقُ خَبَرِهِ وَامْتِثَالُ أَحْكَامِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ يَعْتَقِدُهُ فِي نَفْسِهِ. نصيحة vis-à-vis du Coran. Qu'est-ce que c'est la nasiha vis-à-vis du Coran? Eh bien, c'est le fait d'exposer au monde que le Coran est la parole d'Allah. Et qu'il a été descendu. Et que ce n'est pas une créature. que le Coran est la parole d'Allah, descendu sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que ce n'est pas une créature. Taïeb, on l'a vu hier ça. Hein? C'est quoi le Coran? La parole d'Allah, Jalla wa Ala, descendu sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers, et le dernier des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Commençant par la sourate Al-Fatiha, et se terminant par la sourate An-Nas. Et il est donc obligatoire de croire aux informations contenues dans le Coran. Il est obligatoire d'accréditer tout ce qu'il y a dans le Coran et de se soumettre à ses jugements. Taïeb. Donc la personne doit croire cela également dans son cœur, avoir cette croyance-là. Donc ça c'est la nasiha vis-à-vis du Coran. وأئمة المسلمين كل من والله كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر فهناك إمام عام كرئيس الدولة وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد. Maintenant, la nasiha vis-à-vis des guides parmi les musulmans. Donc, c'est qui les guides, les a'imma? Eh bien, c'est tous ceux qu'Allah Jalla wa Ala, tous ceux à qui Allah Jalla wa Ala a donné une gouvernance concernant les affaires des musulmans. Concernant les affaires des musulmans. Taïeb. Donc tous ceux à qui Allah Jalla wa Ala a donné une responsabilité concernant les affaires des musulmans, c'est un imam dans son domaine. Donc on a par exemple l'imam, le chef, le guide qui est général, comme par exemple le gouverneur d'un pays, d'un état, le roi, le président, le dirigeant d'un état. Ça, c'est un imam qu'on dit âme, général. Mais on a aussi d'autres imams qui sont khas, qui ont un commandement spécifique, comme le ministre, par exemple. Le second, ou le prince, ou le directeur, ou le président d'un institut. D'accord? Et bien sûr, on a aussi les imams des mosquées. Les imams des mosquées font partie également ici des imams des musulmans, des guides des musulmans. Et autre que. وعامتهم أو عامتهم يعني عامة المسلمين وهم التابعون للأئمة. ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء. Puis on a enfin عامتهم. C'est qui? Ce sont les musulmans de façon générale. Et ce sont ceux qui sont derrière les imams, derrière les gouverneurs, derrière les chefs. Taïeb. Donc on doit faire preuve de nasiha, non seulement pour les gouverneurs, mais aussi, bien sûr, pour les musulmans de façon générale. Et bien sûr, les plus importants imams des musulmans, ce sont les savants. Les savants, ya Abdullah. Les héritiers des prophètes, al-ulama. حفظهم الله ورحمهم والنصيحة للعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء أو لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام والعياذ بالله، كما فعل اليوم بعض طوائف من الصعافقة وغيرهم من الضلال، donc la nasiha qu'on va faire preuve pour les savants musulmans. Comment elle va se faire cette nasiha? Comment on va faire preuve de nasiha pour les musulmans, pour les savants musulmans? Vous voyez? Comment tu vas faire preuve de nasiha pour Cheikh Al-Fawzan, pour Cheikh Al-Luhaydan, pour Cheikh Al-Mufti, Al-Cheikh Salih, Al-Cheikh Cheikh Mohamed ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Al-Jabiri, Cheikh Farkous, Cheikh Al-Azhar, Cheikh Abdelmajid, حفظهم الله أجمعين. Comment on pourra faire preuve de nasiha pour eux? Eh bien, déjà, en propageant leurs qualités, propageant leurs bonnes actions, leurs bonnes paroles, leurs durous, leurs séminaires, leurs fawaïd, mais aussi en se retenant et en s'abstenant de propager yani, des mauvaises paroles à leur encontre. Et également aussi, en étant soucieux de les aider et de les soutenir à atteindre la vérité, à atteindre la rectitude, en les conseillant, en les orientant lorsqu'ils font des erreurs. Car c'est pas parce que c'est un alim qu'il ne fait pas d'erreur. Le seul qui est infaillible, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama font des erreurs. Donc quand ils font des erreurs, tu dois les orienter, tu dois les conseiller, mais d'une manière qui sied à un savant. Tu ne conseilles pas un savant comme tu conseilles n'importe qui. Et tu dois donc lui montrer, s'il s'est trompé, son erreur, mais d'une manière qui ne va pas entacher sa dignité. Tu ne vas pas le salir, encore moins l'insulter ou le dénigrer et le rabaisser dans les réseaux sociaux. Tu ne vas pas diminuer de sa valeur. Ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur ou qu'il a pris un avis qui n'est pas le tien ou qui n'est pas celui des autres savants que tu as le droit de manger sa chair. Car le fait de dévoiler les erreurs des savants, mais d'une manière qui va diminuer de leur valeur, en diminuant leur valeur, en les dénigrant, en les rabaissant, en leur manquant de respect, wallahi, 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 ça c'est néfaste pour l'ensemble des musulmans et pour la religion de l'islam. Ceci est néfaste et un mal. Comme on le voit aujourd'hui, hein, ce qui est fait par certains parmi les groupes égarés tels que Sa'afiqa, qui se permettent de dénigrer des grands savants tels que Cheikh Farkous, Hafidhahullah, Cheikh Mohamed Nahed al-Madkhali, Hafidhahullah, Cheikh Lazhar, Cheikh wa Cheikh al-Ruhayli, Abdelrazak al-Badr, Cheikh Muhiddin, et la liste est longue. الشيخ الرحيلي الشيخ رمزان الهاجري la liste est longue, la liste des savants qu'ils ont fait tomber est très longue, hein. والله المستعان. Donc la fitna vient de ces gens-là, vient de ces petits qui veulent se mettre au niveau des grands. Na'oudhou billah. Les savants, eux, même s'ils divergent, ils se respectent toujours. Même s'ils divergent, ils se respecteront toujours. Quelle que soit la divergence, ils n'agiront jamais comme font les Sa'afiqa. Qu'Allah nous protège d'eux. Fahada, ou hadani al-hadithan, يمثلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من تعاون وتراحم وأهل سنة يعملون بمقتضاهما وقوله المؤمن للمؤمن وقوله مثل المؤمنين المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل كالبنيان هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم يشد بعضه بعضا بيان لوجه الشبه وشبك بين أصابعه تمثيل آخر يقصد منه التقريب للفهم وقوله صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد أي بنسبة إلى جميع أعضائه من حيث الشعور بالراحة والتعب توادهم أي محبة بعضهم لبعض وتعاطفهم أي عطف بعضهم على بعض إذا اشتكى أي تألم تداعى شارك بعضه البعض الآخر في الألم سائر الجسد باقيه بالحمى بماذا؟ بالحمى ما ينشأ الحمى ما ينشأ عن الألم من حرارة الجسم والسهر عدم النوم. Donc ces deux hadiths, hein, le hadith dans lequel il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le croyant pour le croyant est comme une structure fortifiée, se fortifiant les uns les autres, et le deuxième où il dit que l'exemple des croyants dans l'amour, l'affection, la bonté, la compassion, c'est comme un seul corps. Eh bien ces deux hadiths mettent en évidence et représentent le fait que les musulmans doivent s'entraider les uns les autres et faire preuve de compassion les uns pour les autres. Et les gens de la sunna mettent en pratique cela. Ahl sunna mettent en pratique cela. Et ce que ces choses-là impliquent. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant pour le croyant. Ou lorsqu'il dit l'exemple des croyants. Hein? Donc, quand il parle des croyants ici, il parle de quel croyant? Il parle du croyant qui a une foi qui est complète. Une foi complète. D'accord? Donc, les croyants qui ont une foi complète, ils doivent se comporter comme dans ces deux hadiths. Donc, les croyants qui ont une foi complète sont comme un édifice les uns avec les autres. Donc là, bien sûr, c'est une métaphore pour faciliter la compréhension de l'intention de ses propos. Ils se fortifient les uns les autres. Et là, c'est, encore une fois, une explication, un détail supplémentaire qui vient expliquer sa métaphore. Donc, pourquoi les croyants sont comme un édifice fortifié? C'est parce qu'ils se soutiennent les uns les autres. Fahimtum? Et il dit, il a croisé ses doigts. Il a entrecroisé ses doigts. Là, c'est encore une représentation supplémentaire, une métaphore ou une image pour faciliter la compréhension des auditeurs. D'accord? Donc, il y a trois choses ici. Il a dit, ils sont comme une construction fortifiée. Puis il a dit, ils se fortifient les uns les autres. Puis il a entrecroisé ses doigts. Regardez comme il a insisté ici. Regardez comme il a l'insistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il dit, est similaire à un corps ou au corps. Pourquoi? Parce que le corps, par rapport à tous ses membres, ils sont connectés les uns aux autres. Que ce soit dans la sensation de bien-être ou dans la sensation de fatigue. D'accord? Donc il dit concernant At-tawad, donc là c'est l'amour les uns pour les autres, ou al-atf, at-ta'atuf, la douceur, l'indulgence les uns envers les autres. Donc lorsque un des membres ishtaka, c'est-à-dire ressent une douleur, on a donné l'exemple de la dent, ça peut être la tête, ça peut être la main, la jambe, l'estomac, les poumons. Hein? Qu'Allah nous préserve de toutes les maladies. Lorsqu'un des membres ressent une douleur, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, les autres membres se partagent la douleur. Ils ressentent aussi la douleur avec lui. Et cela va créer quoi? Al-humma. C'est quoi al-humma? C'est la fièvre. On n'a pas à confondre avec al-humma. Al-humma, on l'a vu dans le hadith d'Ibn Abbas. Ou, afwan, pas d'Ibn Abbas, le hadith de al-Hussein, Ibn Abdelrahman, al-Buraïda, Ibn Husayb. Al-Huma, c'est une morsure ou une piqûre venimeuse. Alors que Al-Humma, c'est la fièvre. Naam. Donc la fièvre, c'est ce qui va se déclencher lors de la douleur et qui va entraîner la chaleur du corps ou l'augmentation de la chaleur, de la température du corps. Et cela va entraîner également ce qu'on appelle as-sahar. C'est quoi as-sahar? C'est le fait de ne pas pouvoir dormir. Le fait de ne pas pouvoir dormir ou le fait de ne pas dormir, tout simplement. Naam. فهذا الحديث خبر معناه الأمر أي كما أنه إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع جسده فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصابت أحدهم مصيبة يغتم جميعهم ويعملون على إزالتها وفي هذا التشبيه تقريب للفهم وإظهار المعاني في الصور المرئية أي إظهار المعاني المعنوية في صور مادية ملموسة لإيضاح المعنى. ومن صفات أهل سنة ثباتهم في مواقف الامتحان، يأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر لغة هو الحبس، معناه هنا حبس النفس عن الجزاء، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. Donc ce hadith, c'est une information qui a le sens de l'ordre ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne en vérité, nous ordonne d'être compatissants les uns avec les autres, de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres. Comme lorsque un des membres du corps souffre, eh bien la souffrance se propage sur le reste du corps. Et par la même occasion, donc, les croyants, eux, ils doivent être comme une seule et même personne, ou comme un seul et même corps. Lorsque un malheur atteint l'un d'entre eux, eh bien, le reste de la communauté souffre aussi pour lui. Souffre aussi à travers son épreuve. Et les autres devront tout faire pour l'aider à sortir de son épreuve. D'accord ? Donc là, la comparaison, la métaphore avec le corps, c'est encore une fois pour faciliter la compréhension. Et pour mettre en apparence ce qu'il a voulu dire dans des choses visibles, matérielles. Mettre en apparence des idées ou des concepts en les représentant par des choses qui sont matérielles, palpables, afin de clarifier ce que tu veux dire. Quand tu donnes des exemples et que tu donnes des métaphores, cela sera plus impactant et plus compréhensible. Et donc parmi les sifat, les caractéristiques des gens de la sunna, également, là on passe à une autre qualité des gens de la sunna, c'est le fait qu'ils restent fermes lors des épreuves. Parce qu'il dit, les gens de la sunna, ils ordonnent la patience lors de l'épreuve. Donc la patience, sabr, dans la langue arabe, c'est al-habs. Al-habs, c'est l'emprisonnement. Al-habs, l'emprisonnement. Le sens ici dans la parole de l'auteur, rahimahullah, c'est le fait d'emprisonner sa personne pour ne pas qu'elle s'angoisse et qu'elle fasse preuve d'impatience ou de mécontentement ou d'exaspération. D'accord ? Donc premièrement, sabr, la patience, emprisonner sa personne, son âme, pour ne pas qu'elle tombe dans l'exaspération ou le découragement. Deuxièmement, emprisonner sa langue pour ne pas qu'elle se plaigne et qu'elle prononce des paroles qui montrent le mécontentement. Troisièmement, emprisonner ses membres, ses mains, ses pieds, afin que ses mains ne se frappent pas, par exemple, ne frappent pas ses joues, ou ne déchirent pas ses vêtements, comme le font certains ou certaines lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils vont se frapper, ils vont crier, ils vont déchirer leurs habits. Taïeb, tout cela contredit totalement la patience. Akhiran, yaqul al-bala'a. Al-bala'a huwa l'imtihan bil-masa'ibi wa shada'id. Wa shukru inda al-raha'a. الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما وهو صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته والرخاء اتساع النعمة والرضا بمر القضاء الرضا ضد السخط والقضاء لغة هو الحكم وعرفا إرادة الله جل وعلا المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه ومر القضاء ما يجري على العبد مما يكرهه كالمرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام. Et enfin on finit sur ça, al-bala. Donc c'est quoi al-bala? Il dit, ils ordonnent, yani les gens de la sunna, ils ordonnent la patience lors de al-bala. Al-bala c'est l'épreuve. C'est l'épreuve qui va se manifester à travers un malheur, à travers une détresse. Ils vont redonner également un shukr, le remerciement. Le remerciement lors des moments d'aisance. Donc un shukr, le remerciement, la reconnaissance, c'est un acte, voyez, qui va montrer que la personne glorifie et vénère celui qui lui a fait du bien, celui qui lui a donné des bienfaits, parce que c'est son bienfaiteur. Vous voyez? Donc lorsque la personne remercie Allah subhanahu wa ta'ala, elle montre cette reconnaissance en glorifiant son bienfaiteur qui est Allah jalla wa ala. Et comment elle va se réaliser cette reconnaissance? Elle va se réaliser à travers le fait que le serviteur va utiliser ce qu'Allah lui a donné dans son obéissance. Allah Jalla wa Ala lui a donné de l'argent, il va l'utiliser dans l'obéissance à Allah. S'il l'utilise dans le haram, il n'est pas reconnaissant. Allah Jalla wa Ala lui a donné la bonne santé, il l'utilise dans l'obéissance à Allah. Allah Jalla wa Ala lui a donné une science, il l'utilise dans l'obéissance à Allah. Et ainsi de suite. Et Ar-Rakha, c'est quoi? C'est l'étendue des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, être reconnaissant lorsqu'Allah Jalla wa Ala étend ses bienfaits sur toi. Wa Ar-Rida bi murr al-qada. Et Ar-Rida, c'est quoi? C'est le contraire de l'exaspération, ou le contraire du mécontentement. Rida, c'est la satisfaction, l'agrément. Être satisfait de quoi? Du décret difficile, du décret défavorable. Hein? Donc, al-qada, dans la langue arabe, c'est le jugement. Al-qada, c'est le hukm, le jugement. Mais, dans les usages, al-qada, c'est la volonté d'Allah. Al-qada, la volonté d'Allah Jalla wa Ala, attachée aux choses qui se produisent implacablement, inévitablement. Donc al-qada, ce sont le décret d'Allah, ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété jusqu'à la fin des temps. Les choses qui vont se dérouler et se produire inévitablement. Et qui est écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée. Taïeb, on peut l'appeler également la volonté universelle. Al-Iradatul Kawniya, la volonté qui est liée à la création d'Allah Jalla wa Ala. Donc, Mur al-Qada, c'est-à-dire ce qui arrive à la créature de détestable pour elle. Les choses que la créature déteste et qu'Allah il a décrétées, comme la maladie, la pauvreté, les nuisances des créatures, l'injustice des créatures à son encontre, la grande chaleur, le grand froid, les maladies, les douleurs. Donc tout ça rentre dans le terme murru al-qada. Murru al-qada. Donc Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ordonnent donc la patience lors des épreuves, ils ordonnent le remerciement lors des moments d'aisance, et ils ordonnent la satisfaction lors des décrets, hein, ou lorsque Allah Jalla wa'ala leur a décrété des choses qui leur sont défavorables ou qu'ils n'aiment pas. Ils doivent accepter et ils doivent être satisfaits de cela. طيب فنكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته